historiquement vôtre.
Notre spécial belge célèbre de l'histoire continue toujours en compagnie de Philippe Geluck, l'auteur du Chat. Avec David Castello-Lopez, chaque jour, on découvre l'origine d'une invention qui fait notre quotidien. Alors bon, là, c'est pas notre quotidien depuis longtemps, puisqu'on va plus trop en boîte de nuit.
Mais... Oui, c'est le stroboscope. Hein, vous voyez ce que je veux dire.
C'est toute ma jeunesse. Oui. Moi, j'avais même acheté un stroboscope pour faire ma boum.
Attendez,
vous aussi, Vincent. C'est toujours la même chose. Le problème, c'est qu'avec David, on a la même vie, on a le même âge, on a la même connerie. Donc forcément, on a les mêmes idées.
On a aussi un garage.
Avec les boules à facettes.
Ah, ça, c'est autre chose. Je ne dis plus rien. Oui. Je ne dis plus rien. David, racontez-nous le stroboscope.
Moi, quand j'étais en 6e, j'étais amoureux d'une fille qui s'appelait Constance. Et ce n'était pas facile parce qu'elle, non. C'est-à-dire,
la même vie qu'on a eue.
Voilà.
Hein.
Elle ne s'intéressait pas à moi.
On a tous eu la même vie.
Elle ne s'intéressait pas à moi. Mais heureusement, dans ma poursuite amoureuse, j'avais un allié, enfin un camarade, qui s'appelait Yann, et qui était, lui, incroyablement à l'aise. Ce qui était assez remarquable, d'ailleurs, parce qu'il était tout petit, il avait un triple menton à l'âge de 11 ans.
S'il nous écoute aujourd'hui.
Et il respirait très bruyamment, mais il avait une tchatche de niveau international. Donc c'était un petit peu, si vous voulez, mon mentor de cool. Et je me disais qu'il pouvait peut-être m'aider donc à sortir avec Constance. Il m'avait dit à ce propos qu'une des façons d'être cool et donc d'embrasser des filles, c'était d'organiser des booms. Lui, il en avait déjà organisé plein. Alors je l'ai fait venir chez moi en tant que consultant de boom, si vous voulez. Et ma mère, elle s'en souvient encore parce que bon, il avait 11 ans, il mesurait 1m20, mais il disait des trucs du genre bon là, il faudrait prévoir une table avec du jus d'orange. Hein. Ensuite, c'est minimum 200 grammes de bonbons par personne, hein, pas moins. Et bien sûr, ça va sans dire, il va falloir louer du matériel de boîte de nuit, hein, et surtout un stroboscope. Sinon, je ne peux pas garantir le niveau de fun de cette boom. Alors j'ai convaincu ma mère et on est allé louer un stroboscope. Et le 16 janvier 1993, entre 14h30 et 18h30, a eu lieu ce qu'on a appelé la première boom de David Castello-Lopez. Elle est restée dans les mémoires, cette boom, pour plein de raisons. Pour les slows sur Heal the World de Michael Jackson, pour les chorégraphies sur Do You Remember the Time de Michael Jackson, pour le moonwalk en chaussettes sur Smooth Criminal de Michael Jackson, et enfin, surtout, pour le côté un petit peu professionnel qu'avait donné à cette boom, le stroboscope, cette lampe qui rend la réalité visible, intermittente, et donc du même coup mystérieuse et sexy. Je reviendrai à cette boom plus tard, mais si vous voulez bien, je vais d'abord parler de ce pourquoi on me paye dans cette émission, c'est-à-dire non pas pour raconter mon adolescence, mais pour raconter l'histoire des objets.
C'est aussi la mienne.
Et aujourd'hui, donc, ce fameux
monsieur stroboscope.
Exactement. Et si je vous en parle aujourd'hui dans cette émission spéciale Belgique, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est que les débuts du stroboscope, on les doit à un Belge qui s'appelait Joseph Plateau. Joseph, il est né en 1801. Oui, les Belges connaissent les Belges.
Ah bon, c'est ça. Ça, c'est fou. Ils connaissent tous les Belges.
La persistance rétinienne, c'est ça. Oui, absolument.
Joseph Plateau, c'était un peu ce qu'on pourrait appeler un geek de la lumière. Vous voyez, c'est en particulier de l'étude de comment l'œil humain l'aperçoit et comment cette fameux phénomène de persistance rétinienne. Et en 1832, il a inventé ce qu'on a appelé le phénakistiscope. Phénakos en grec, ça veut dire le tromper, la tromperie. Donc c'est tromper l'œil, en fait, si vous voulez. C'était un disque sur lequel étaient dessinées des images légèrement différentes les unes des autres. Ce disque était percé d'ouvertures rectangulaires. On le faisait tourner et quand on plaçait son œil à un endroit précis et qu'on regardait le reflet du disque dans un miroir, eh bien on avait l'impression que les images bougeaient. C'est considéré comme le plus vieil ancêtre du cinéma, mais également comme le plus vieil ancêtre du stroboscope parce que c'est un principe très voisin. Un stroboscope, c'est une lumière qui s'allume et puis qui s'éteint, et puis qui s'allume, et puis qui s'éteint. Et là, c'est le même effet qui est obtenu, mais avec des trous. Quand un trou est en face de votre œil, c'est comme si la lumière était allumée. Quand votre œil est en face d'une partie pleine du disque, c'est comme si la lumière était éteinte. Ça a eu un très très gros succès, en particulier en tant que jouet pour les enfants. Mais il a fallu attendre 100 ans, 1932, pour que le stroboscope électronique moderne soit inventé par un monsieur américain qui s'appelait Doc Edgerton et qu'on surnommait Papa Flash. Edgerton, il a utilisé son stroboscope pour prendre des photos à grande vitesse, notamment une assez célèbre d'une balle de revolver qui traverse une carte à jouer. Et son stroboscope a aussi été utilisé dans l'industrie parce que la lumière intermittente a la faculté, quand on la règle bien, de rendre apparemment plus lent le mouvement, très rapide, que sinon on a du mal à voir.
Ça a inventé le ralenti.
Exactement. Et donc un rouage qui tourne très vite, par exemple, vous voulez savoir s'il déconne ou pas, on ne voit rien, et ben avec un stroboscope, on peut étudier son mouvement. Bon, en revanche, c'est assez difficile de savoir quand le stroboscope est entré dans les boîtes de nuit. On lit, mais sans que ce soit vérifié, que c'est dans les années 60 aux États-Unis, mais bon, on ne sait pas. En tout cas, en 1993, ça a donné lieu à une belle boom qui est restée dans les mémoires. Mais malheureusement pour moi, ça n'a pas été suffisant. Constance n'a jamais voulu de moi, ni sous la lumière des stroboscopes, ni plus tard. Pourquoi ? Eh bien, pour le savoir, 28 ans plus tard, je l'ai appelé. Hier soir, je l'ai appelée Constance et elle m'a répondu un petit peu plus tard avec une note vocale.
Non.
Et voici
non.
donc les explications de pourquoi en 1993, Constance ne voulait pas de moi.
Ce dont je me souviens, c'est que oui, effectivement, tu n'étais pas extrêmement populaire en sixième parce que tu étais beaucoup trop intelligent. Et donc, il y avait forcément une certaine forme de jalousie cachée de notre part parce que tu étais un peu faillot également
voilà.
avec les professeurs. Et on ne peut pas être faillot en sixième. C'est pas possible, c'est fini ça.
Voilà, donc un côté assez sympa, tu étais trop intelligent, on était jaloux. Et à l'autre côté, tu étais un faillot. Et voilà pourquoi on ne voulait pas sortir avec toi.
C'est
voilà.
génial. Vous m'appellerez Sandra Elguir pour savoir pourquoi en sixième, elle n'est pas sortie avec moi alors que j'ai organisé la meilleure boum de l'histoire. On a tous, Philippe, des souvenirs de boum.
Mais bien entendu, je n'ai que ça. Non, mais moi, c'était
Cold Case, votre émission là.
C'était bien avant vous. Et je peux vous confirmer que le stroboscope était utilisé dans la fin des années 60 dans les booms en Belgique.
Ah bah,
de même que la sangria, qui ressemble, je ne sais pas si vous avez noté que la sangria, donc c'est du vin avec des morceaux de fruits, de la sangria vomie ressemble étonnamment à de la sangria pas vomie.
Oh,
ça a un petit peu le même goût aigrelé.
Oh, non.
Mais je voulais terminer sur une note historique avec Plateau, dont vous avez parlé. Joseph Plateau, donc, qui est un petit peu l'inventeur du cinéma, et en tout cas de l'animation. Vous savez comment il a fini, lui?
Ben, il a regardé le soleil
voilà.
et il est devenu aveugle.
Il était tellement passionné par la lumière qu'il a essayé de regarder le soleil en face, il s'est brûlé les deux rétines.
Voilà, persistance rétinienne totale jusqu'à la fin de sa vie.
On peut être un génie et être un con, en fait.
il a fait des expériences. Et voilà. En tout cas, merci David, c'était passionnant.